Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes à Cherbourg aujourd'hui où une sépulture médiévale a été trouvée sous un parking. On découvre ensuite une opération de rénovation de voitures chez Peugeot à Sochaux. Et enfin, nous sommes à Bordeaux pour la réouverture du Muséum d'Histoire Naturelle après 10 ans de travaux. Mais commençons par l'actu de ce vendredi 29 mars. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
La liquidation judiciaire a été prononcée pour la papeterie Arjo Wiggins. Des centaines de personnes sont concernées dans la Sarthe.
Et deux sites sont partiellement sauvés. Il n'y avait plus de repreneur potentiel après le renoncement du seul candidat en lice, le Suédois Lessebo, qui n'avait pas pu finaliser son offre.
On va voir comment se présente le 20e samedi annoncé des Gilets jaunes. Plusieurs villes ont interdit les manifestations dans leur centre.
Et puis ce nouveau débat qui est en route depuis ce matin, lancé par le ministre Gérald Darmanin, qui propose de supprimer la redevance audiovisuelle.
29 mars, c'était le jour du Brexit.
C'était, ce n'est plus, à l'heure d'un nouveau vote des députés britanniques aujourd'hui. On va voir que les stations de ski en Savoie s'inquiètent sérieusement de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe.
On va chausser des Charentaises qui ont leur indication géographique depuis ce matin. C'est la Charentaise Charente-Périgord.
Et on regarde l'heure, Frédéric, c'est un week-end de passage à l'heure d'été.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Et on a appris la mort en fin de matinée d'Agnès Varda à l'âge de 90 ans.
La cinéaste de la Nouvelle Vague avait présenté le mois dernier son dernier documentaire « Varda par Agnès ». Elle avait indiqué qu'elle ralentissait, qu'elle se préparait à dire au revoir, à partir. C'était la réalisatrice de « Sans toi ni loi » avec Sandrine Bonner et de « Cléo » de 5 à 7 au début des années 60.
Elle avait commencé par la photographie, Agnès Varda.
J'ai choisi la photographie presque un peu par hasard, en pensant que c'était un métier intéressant. J'avais pas eu d'appareil amateur, comme on dit. J'avais jamais fait de photos comme ça, histoire de. J'ai commencé, puis j'ai appris un petit peu à le faire. J'aimais bien parce que c'était de l'artisanat. Il fallait faire soi-même développer, agrandir. Et il se trouve que comme je connaissais Jean Villard, quand il a commencé le festival d'Avignon, et ensuite au TNP, je me suis trouvée être la photographe de l'équipe de Jean Villard. Et peut-être que la présence de Gérard Philippe, qui était une star, a fait que mes photos ont été beaucoup vues et que je suis devenue photographe connue.
Agnès Varda, au micro d'Élodie Suigo.
C'est une très grande dame du cinéma qui s'en va aujourd'hui à saluer ce matin le cinéaste Claude Lelouch.
Cette fois, la décision n'a pas été reportée. Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la papeterie Arjo Wiggins.
Liquidation du site de Bessé-sur-Braye dans la Sarthe. Deux autres sites sont partiellement repris dans la Sarthe et dans l'Aisne. Vous êtes à Bessé-sur-Braye, Alexandre Chassignon, là où travaillaient 570 personnes.
Bien sûr, ce n'est pas une surprise. Cette liquidation, ça fait un mois qu'on l'a senti venir, soupire un employé. Ça n'en reste pas moins un énorme coup de massue. C'est le terme utilisé notamment par le maire Jacques Lacoche, assommé comme tout le personnel réuni dans la cour de l'usine. Quand vers midi moins le quart, le secrétaire du comité d'entreprise, Christophe Garcia, a prononcé les mots de liquidation judiciaire. Et ces mots ont libéré les émotions qui étaient jusque-là contenues à travers les hauts et les bas traversés pendant ces trois mois de redressement judiciaire. Des larmes, bien sûr, de la colère aussi face à ce qui est unanimement ici ressenti comme un abandon, notamment de la part des pouvoirs publics. Ces mots de liquidation judiciaire, ils font mal, moralement, économiquement aussi, pour les employés et pour tout le bassin de Bessé-sur-Braye. Arjo, c'est 2 millions, c'était 2,5 millions de salaires par mois. Les salariés qui se disent maintenant avoir besoin d'un peu de temps pour digérer cette annonce, commencer à penser à l'après, ceux qu'ils veulent se réunissent maintenant pour partager ensemble un dernier repas sur le site de l'usine.
Alexandre Chassignon à France Bleu Maine. L'autre site, Arjo Wiggins, celui du Bourret, est repris par l'un de ses clients. 117 des 250 emplois seraient conservés. L'usine Greenfield à Château-Thierry dans l'Aisne, qui produit de la pâte à papier recyclée, est reprise avec ses 75 salariés par l'allemand WEPA. La situation est à suivre en direct sur francebleu.fr.
Le gilet jaune Éric Drouet a été condamné à 2000 euros d'amende, dont 500 avec sursis, pour l'organisation de deux manifestations parisiennes sans déclaration préalable en décembre et en janvier.
Comment se présente ce nouveau samedi de rassemblement, le 20e du genre depuis le mois de novembre? Des manifestations sont annoncées à Paris, dans plusieurs villes de France, avec des interdictions dans des centres-villes comme à Bordeaux, Rouen, Épinal ou Avignon. Des maires, comme celui de Bordeaux, Nicolas Florian, conseillent aux commerçants de baisser le rideau demain et aux Bordelais de rester chez eux.
Et on ira à Bordeaux tout à l'heure dans Une Heure en France, mais ce sera pour la réouverture du muséum, c'est dimanche. Et voilà un nouveau débat au milieu de beaucoup de débats déjà en cours en ce moment. Faut-il supprimer la redevance de l'audiovisuel public ?
C'est le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui lance l'idée parce que ça deviendrait compliqué de collecter cet impôt avec la disparition de la taxe d'habitation, dit-il. Le ministre de la Culture, Franck Riester, lui, était l'invité de France Bleu Azur ce matin.
La question, c'est de savoir si on a besoin d'un service public de l'audiovisuel dans notre pays. Et pour moi, la réponse est trois fois oui. Oui, nous avons besoin d'un service public de l'audiovisuel fort. Parce qu'il y a des enjeux considérables en matière d'éducation, en matière de culture, en matière d'information, de lutte contre la désinformation. On voit les ravages de la désinformation aujourd'hui dans notre pays. Et l'audiovisuel public peut relever ces défis-là avec force, qualité et efficacité. Deuxièmement, il faut le financer. Et la question, c'est d'avoir un financement qui soit à la hauteur des besoins et qui soit pérenne et qui garantisse l'indépendance de l'audiovisuel public par rapport au pouvoir politique. C'est ça l'enjeu. Après, les modalités techniques, on va regarder ça avec le budget. Et c'est le président de la République et le Premier ministre qui prendront leurs décisions.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, et la redevance audiovisuelle.
Nous sommes le 29 mars. Ce devait être le jour du Brexit. Ce sera peut-être le jour de sortie de l'impasse.
Les députés britanniques votent pour la troisième fois sur l'accord de divorce avec l'Union européenne.
Le Brexit qui va se nicher jusqu'au pied des stations de ski savoyardes.
Oui, il faut dire que les Britanniques sont les étrangers les plus nombreux à skier en Tarentaise notamment, à Tignes, à Val d'Isère, Méribel, Courchevel ou La Plagne. C'est le maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs qui lance un appel à manifester le 6 avril à l'heure du dernier Eurostar de la saison pour dire que le Brexit est une hérésie. Michel Giraudy.
Le 6 avril, c'est le dernier Eurostar qui rentre sur Londres de la saison. Dans ma connaissance, c'est le seul Eurostar qui va aussi loin en France directement, tous les week-ends pendant la saison d'hiver. En Tarentaise, je crois qu'il rentre environ 500 000 Britanniques chaque hiver. C'est la clientèle la plus importante, étrangère, avec, j'aime pas ce mot. En gare de Bourg-Saint-Maurice, par exemple, il y a une douane qui va être construite si le Brexit se réalise. C'est inimaginable que l'on reconstruise des douanes dans un continent qui a réussi la plus belle chose au monde. C'est une fake news ou un canular, ça pareil, mais si, c'est une vérité qu'on peut encore aujourd'hui se séparer entre deux pays en Europe.
Ce jour-là, le 6 avril, lors de cette manifestation clin d'œil pour dénoncer le Brexit, le maire de Bourg-Saint-Maurice, Michel Giraudy, va faire jouer la Marseillaise et God Save the Queen.
Et la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne officiel de l'Union européenne.
L'hymne à la joie, le quatrième et dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, devenu l'hymne européen.
À propos d'Europe, au risque de se répéter, on peut encore s'inscrire sur les listes électorales pour les élections de fin mai, en mairie, et même dimanche compris, le dernier jour, le 31 mars, sur Internet, sur servicepublic.fr.
Pour éviter toute confusion, on est bien d'accord. Dans la nuit de samedi à dimanche, on avance nos montres d'une heure.
Oui.
Une heure de sommeil en moins ce week-end pour passer à l'heure d'été.
Oui, on se pose quand même la question depuis 1976. Hein, et on débattait déjà en 1916, quand l'heure d'été avait été adoptée pour la première fois en France, ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on pratiquait l'heure d'été avec une différence entre zone libre et zone occupée.
On revient aujourd'hui.
Oui.
Plus de 2 millions d'internautes ont voté à près de 84% en faveur de la fin du changement d'heure.
Avec une préférence pour l'heure d'été, Sébastien Sabiron.
Des barbecues, des apéros qui se prolongent, y compris en automne. Sur le papier, l'heure d'été peut faire rêver, mais n'est pas sans conséquences. Car si le soleil se couche plus tard toute l'année, fatalement, il se lève plus tard aussi. Pas de soleil avant 10 heures à Quimper, le 20 décembre par exemple. Pendant l'hiver, les écoliers bretons resteront donc dans la pénombre jusqu'à la récré du matin, pénalisant également pour plusieurs secteurs économiques, dont l'agriculture ou le bâtiment, des métiers dont les journées de travail débutent très tôt. Pour ses partisans, malgré tout, l'heure d'été correspond mieux à la vie moderne. La plupart des Français se lèvent et se couchent plus tard qu'au siècle dernier. Mais pour ses détracteurs, l'heure d'été permanente accentuerait justement la dette de sommeil dont nous souffrons déjà, en nous incitant à nous coucher encore plus tard. Si les Français préfèrent l'heure d'été, il faut attendre l'avis de nos voisins avec un risque de cacophonie horlogère. Le plus simple, disent les députés européens, serait que les États d'un même fuseau horaire s'alignent sur le même changement horaire.
Sébastien Sabiron et le changement d'heure.
Prochaine date annoncée annoncé pour le maintien à la même heure toute l'année. C'est 2021, sauf nouveau débat d'ici là et report de la décision. On avance ou on recule dans la nuit de samedi à dimanche?
Je ne sais plus.
On avance, Frédéric.
13h10 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera en Charente-Périgord, l'indication géographique désormais pour la fabrication des charentaises, vous savez, les pantoufles. Mais avant, c'est bien connu, on a l'âge que l'on a dans sa tête et pas forcément dans son corps, car le physique ne suit pas toujours. On a repéré ce colloque sur les couleurs de l'âge, parce qu'à la retraite, le corps et l'esprit vivent une petite révolution.
Comment peut-on expliquer que l'on a 20 ans dans sa tête alors que le corps vous lâche, disait François Mitterrand, cité par l'explorateur Jean-Louis Etienne, qui était notre invité il y a quelques temps. Rassurez-nous, Delphine Marion-Boule, il y a des pistes, des débuts de solutions?
Se sentir jeune dans sa tête avec un corps qui ne suit pas toujours, c'est le dilemme des retraités. Une forme de crise d'adolescence bis, explique Philippe Rousseau, chronobiologiste.
Comme l'adolescent, on quitte le milieu de l'emploi qui nous a structurés, qui nous a identifiés. Ça, c'est déjà quelque chose de dur à se séparer. Et la deuxième chose, c'est notre corps qui se transforme.
Des transformations physiques auxquelles on peut s'adapter, notamment par le sport.
Quel que soit l'âge de la vie. Par exemple, quelqu'un qui a des prothèses de hanches peut très bien faire de l'activité physique à condition qu'elle soit adaptée. Parce que souvent, les gens, et vous l'évoquez, vont avoir trop de performances, ce qui va les rebuter de faire une activité physique qui est nécessaire pour pouvoir continuer à vivre en équilibre.
Car être bien dans ses baskets, cela joue aussi sur le moral.
C'est une manière de rompre l'isolement. Une des problématiques du départ à la retraite et du vieillissement, c'est l'isolement. L'activité physique est une manière aussi de retrouver des autres. C'est-à-dire, là on tombe dans un phénomène plus général, hein, c'est au niveau du lien social.
Mais bien vieillir, cela passe aussi par le sommeil, la nutrition ou encore un logement adapté.
Delphine Marion-Boule et les conseils pour bien vieillir.
Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des pantoufles quand on a fini le sport.
Vous voulez dire une paire de charentaises?
Pourquoi pas?
Elle vient d'obtenir son indication géographique avec cette appellation, la charentaise de Charente-Périgord. Une indication géographique homologuée par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Il n'y en a que 8 en France, Sophie Ovigne, pour les produits manufacturés.
Le siège de l'IFOL a été le premier objet reconnu par une IG, une indication géographique, il y a moins de 3 ans. Puis sont venus le granit de Bretagne, la porcelaine de Limoges ou encore la tapisserie d'Aubusson. Cette fois, c'est un chausson vieux de 200 ans qui sera protégé des contrefaçons. En particulier, la technique du cousu retourné, qui permet de coudre la semelle et la tige à l'envers, puis comme son nom l'indique, de tout retourner pour y glisser le pied. Environ 300 000 paires sont fabriquées chaque année en Dordogne et en Charente, et les ventes augmentent depuis 10 ans en France, mais surtout à l'étranger, en Asie et en Amérique du Nord. L'indication géographique devrait faciliter encore un peu plus les exportations, comme c'est le cas pour les produits agroalimentaires, eux-mêmes protégés depuis les années 90. Et d'ailleurs, les candidats au label sont nombreux, les prochains sur la liste pourraient être les Santons de Provence, l'Absolu de Grasse, les pierres marbrières de Rhône-Alpes ou encore les poteries d'Alsace.
Sophie Ovigne et la charentaise Charente-Périgord que l'on porte donc au Canada, aux États-Unis et en Asie.
Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Mes Mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Mes pantoufles, mes pantoufles.
Si vous aviez vu la tête de Frédéric Le Tournier.
Vous me surprenez chaque jour.
Jean Constantin avec Big César et son orchestre. Constantin, c'est l'auteur des paroles de la chanson Mon manège à moi, chantée par Édith Piaf.
C'est plus connu.
Attendez, avant le foot, dans la nuit de samedi à dimanche, on avance l'heure ou on recule l'heure?
Je sais plus, on avance.
Mais voilà, quand même.
Le match de Ligue 1 de football du vendredi, c'est à Rennes.
Les Bretons reçoivent Lyon qui fait la chasse à Lille, le deuxième au classement, avant un autre Lyon-Rennes mardi prochain en Coupe de France cette fois.
Avec une heure en France, nous allons à Cherbourg dans un instant, à Sochaux et à Bordeaux.
Avec un squelette du Moyen-Âge, des 504 Peugeot rénovés.
Ça vous plaît ça.
Et un muséum qui rouvre ses portes, ce sera après la météo du jour.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir. À... à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.